Bonjour, c'est Axel de Tarlé. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
À droite, toutes ces Sarkoland auraient même lâché dépité un ancien ministre éconduit. En nommant Rachida Dati à la culture, Emmanuel Macron parachève le grand voyage idéologique qu'il a vu naître à gauche, chez François Hollande, pour terminer à droite avec la Sarko Connection, comme l'écrit ce matin le journal Libération. Alors comment analyser ce virage politique? Pourquoi être allé chercher Rachida Dati? Quelle sera la place et la marge de manœuvre de Gabriel Attal à la tête de ce gouvernement? Et puis comment va réagir l'aile gauche de la Macronie et François Bayrou, qu'on dit très mécontent? Pourrait-il nuire à l'action du chef de l'État? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Macron à droite et à droit » en forme de question. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Cécile Cornudet. Vous êtes éditorialiste politique aux Échos. À lire votre chronique ce matin, « Le macronisme vire à droite ». Guillaume Daret, vous êtes grand reporter et chef adjoint du service politique à France Télévisions.
Bonsoir.
Bonsoir. Louis Osalter, vous êtes journaliste politique au Figaro qui titre aujourd'hui « Le changement dans la continuité ». À lire votre article « Nommé ministre de la Culture, Rachida Dati quitte LR ». Et enfin, Laure Salvin, vous êtes directrice générale de l'Institut de sondage Verian, c'est l'ancien Kantar Public France. Merci de participer à cette émission en direct. Bonsoir. Alors Cécile Cornudet, votre édito, le macronisme vire à droite. Voilà, c'est l'élément central de cette séquence.
Écoutez, quand vous regardez ce qui s'est passé hier, ceux qui restent, les poids lourds, c'est des gens de droite. Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu. Ceux qui partent, c'est des gens de gauche. Et les deux surprises entrantes, ce sont des femmes de droite. Catherine Vautrin, à la tête d'un grand ministère social, et Rachida Dati. Donc, oui, il y a plus de ministres. Là, c'est une équipe resserrée, mais et on ne sait pas quels seront les autres ministres qui vont venir dans quelques jours compléter l'équipe. Mais il n'empêche, ce pack que le président veut mettre en avant, c'est un pack de droite. Il fait ça, à mon avis, pour deux raisons. D'abord, pour montrer qu'il peut surprendre. Personne pensait qu'il irait là-dessus. Ils ont une telle culture du dépassement politique. D'ailleurs, peut-être que ça ne durera pas. Peut-être que c'est juste dans cette période de pré-campagne électorale. Peut-être qu'on aura une autre phase derrière à partir de septembre.
Ça pourrait être une séquence de droite en vue des européennes avec
oui,
pourquoi
moi,
pas
je pense
un
que
nouveau...
Pourquoi pas, parce que je pense que sa première volonté, c'est vraiment de dire je ne suis pas enfermé, je ne suis pas mort. En fait, tout le monde disait, il y a une atmosphère de fin de règne, il n'a plus d'espace politique, il ne peut plus rien faire. Là, il surprend, il montre qu'il innove, il choque, il fait preuve d'autorité parce que son aile gauche, il lui en veut de ne pas l'avoir soutenu dans la loi sur l'immigration.
Pensez à Clément Beaune, notamment.
Clément Beaune, mais même François Bayrou, des gens comme ça. Tout cet univers-là, tous ces vrais proches, en fait, historiques, près de lui, qui sont plutôt à gauche, parce que comme vous disiez, il vient, lui, de la gauche, et bien ceux-là, il estime qu'ils n'ont pas été là au moment où il avait besoin d'eux. Donc là, il fait preuve d'autorité. Donc il surprend, il montre qu'il disrupte, que c'est le président qui est capable de faire des choses pareilles. Donc c'est d'abord presque pour lui, je pense, qu'il choisit, pour montrer quelque chose de lui, qu'il choisit ce virage à droite. Et puis à la campagne pour les européennes. C'est une façon de disloquer LR. Et d'ailleurs, ils sont très, très choqués par ce qui se passe, parce que manifestement, Gabriel Attal avait dit à Éric Ciotti, on ne débauchera personne. Donc, il débauche des énormes poils lourds.
Il n'était pas au courant, de ce qui se tramait.
Non. D'abord, il n'était pas au courant. Et puis, peut-être que quand il l'a été, il n'a pas voulu gâcher l'effet de surprise. Donc, il n'a pas vraiment, tout dit. En tout cas, LR est abîmé et ne sait pas trop comment réagir par rapport à ça. Et donc, l'idée pour les élections européennes, c'est de focaliser sur un match Marine Le Pen, Emmanuel Macron, pour que, en fait.
Avec leurs deux lieutenants.
Leurs deux lieutenants respectés, mais polariser le débat, pour essayer de dire, en fait, à l'électorat de droite, qui a progressé, on le sait, la société est de plus en plus à droite, eh bien, écoutez, si vous ne voulez pas de Le Pen, c'est Emmanuel Macron qui faut voter. Pour Emmanuel Macron et sa liste qu'il faut voter. Donc, ça, c'est la stratégie. Après, ça pose plein de questions, on en reparlera, j'imagine. Ça ouvre un champ à gauche, ça perturbe énormément dans son camp. Mais, en tout cas, c'est le double effet de ce virage à droite.
Guillaume Daret, y a 24 heures ici, c'était une rumeur, Rachida Dati, et on osait à peine le dire parce qu'on avait peur d'être contredit. Vous qui êtes toujours dans le secret des dieux, ça a été une énorme surprise, ça n'avait pas fuité.
Ça n'avait pas fuité, mais c'est vrai que quand ça a commencé à sortir en fin d'après-midi, je pense que comme plusieurs de mes confrères, on a passé des coups de fil à certains ministres ou conseillers ministériels de droite qui effectivement nous ont dit c'est du sérieux. Parce que notre première question, ça a été mais est-ce que c'est sérieux ? Et ils nous ont dit effectivement c'est du sérieux. Comme le disait Cécile, effectivement, Gabriel Attal avait pourtant certifié à Éric Ciotti, dit-il, mardi soir dans un coup de fil que non, il n'y aurait pas de débauchage des Républicains. Il y a eu un deuxième coup de fil, visiblement, hier soir, où Gabriel Attal a dit à Éric Ciotti, non, attention, ce n'est pas un coup de poignard contre les Républicains, on n'achète pas une républicaine, on achète la marque Dati. C'est en tout cas ce que dit Gabriel Attal. Mais c'est vrai qu'au sein des Républicains, il ne l'avait pas vu venir. Éric Ciotti a immédiatement appelé Rachida Dati, qui lui a confirmé. Il y a une personne qui était bien sûr au courant de tout cela depuis plusieurs jours, c'est Nicolas Sarkozy, avec lequel Rachida Dati avait échangé. Et Nicolas Sarkozy, qui d'ailleurs dans la soirée a échangé avec Emmanuel Macron lui-même, ils se sont téléphonés, ils ont échangé une fois le gouvernement constitué, parce que ce qui se passe hier, c'est la validation totale de ce que souhaite Nicolas Sarkozy depuis le départ. C'est-à-dire ce que dit l'entourage de Nicolas Sarkozy, c'est il faut qu'Emmanuel Macron donne des gages à la droite sur le plan des idées et sur le plan des hommes. Donc à partir du moment où il le fait, pourquoi ne pas y aller ? Macron le fait hier, Nicolas Sarkozy dit à ses troupes, allez-y. Nicolas Sarkozy pense que la seule chance de la droite en 2027, c'est d'être capable de montrer qu'ils ont exercé le pouvoir, d'être au pouvoir, et que ce n'est pas dans l'opposition qu'ils pourront se constituer.
C'est une question, là, Magali, dans les Bouches-du-Rhône, qui dit à quoi joue Nicolas Sarkozy en tirant les ficelles contre son propre camp ? Il ne croit plus au LR, il dit la droite, il faut la susciter chez Macron maintenant ?
Ce qu'il dit, c'est qu'il faut occuper le terrain, qu'Emmanuel Macron a besoin de personnel politique, comme on le disait tout à l'heure, que dans les faits, les Républicains, pour une bonne partie, sont pas très well éloignés de ce que pense Emmanuel Macron et de ce qu'il met en place. L'ancien communicant de Nicolas Sarkozy, Franck Louvrier, j'entendais ce matin, j'ai échangé aussi avec lui, il me dit, franchement, quand on a entendu le discours de Gabriel Attal sur le perron de Matignon, on est un peu tombé par terre, parce que sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'économie, quelle est la différence avec la droite ? Pour eux, il n'y en a quasiment aucune. Et donc, ils se disent, il faut gouverner avec Emmanuel Macron.
D'autant qu'Emmanuel Macron ne peut pas se représenter. Donc derrière se posera la question, est-ce qu'on revient à un clivage gauche-droite traditionnel ?
C'est Jean-François Copé, Louis Osalter, qui disait hier matin sur Europe 1, Gabriel Attal vient de la gauche, mais il ne l'est plus du tout.
Et en effet, on peut se poser la question, quand on entend Gabriel Attal sur le perron de Matignon, mais même avant, avec ses actions au ministère de l'Éducation nationale, l'interdiction de l'abaya, le choc des savoirs, la lutte contre le harcèlement, même le Rassemblement national était un peu embêté, quoi, parce qu'il venait clairement sur des terres. Bon, en réalité, soit on les disons.
Mais c'est quoi, c'est de l'opportunisme ?
Qui répond aux attentes des Français. Oui, je pense. C'est assez frappant, Gabriel Attal, quand il s'est exprimé hier à la télévision. Il n'a pas déroulé son fil conducteur, ce qu'il allait faire dans les prochains mois, parce que lui-même ne le sait pas, parce que ce s'est abrité par Emmanuel Macron. Donc comment il s'en est sorti ? Il a déroulé les priorités des Français dans les sondages. Lui, qui lit beaucoup les sondages, a expliqué qu'il répondrait au pouvoir d'achat, à la sécurité, au programme migratoire, à la santé, etc. Donc il déroule en fait, et en disant on va apporter des réponses concrètes.
Ce n'est pas une droite d'idéologie, c'est finalement...
Gabriel Attal ne passe plus pour un idéologue, si tant est qu'un jour il ait pu passer pour un idéologue. Alors certes, il a un parcours militant au Parti Socialiste, il a un parcours de collaborateur ministériel de Marisol Touraine sous le quinquennat de François Hollande.
Qui était assez à gauche.
Mais pour le reste, qui était à gauche,
court,
oui.
Ça a duré un an ou deux.
Mais pour le reste, déjà, il émerge complètement au moment du pouvoir Macron, au sens où c'est clairement une créature d'Emmanuel Macron, sans doute sa créature la plus aboutie, en tout cas celle qui a le plus de notoriété, de popularité, et Emmanuel Macron l'acte définitivement en le nommant Premier ministre. Et sur le plan idéologique, moi je pense qu'il a serpenté autour de cette colonne vertébrale fragile qu'est le macronisme. Parce que le macronisme aussi a évolué idéologiquement, que ce soit sur la sécurité, sur l'immigration, même sur l'économie. Faire des chèques pendant le Covid à ce point-là, ce n'était pas du tout raccord avec le logiciel libéral et peu interventionniste d'un Emmanuel Macron en 2017. Et Gabriel Attal a habilement, c'est là qu'on peut parler d'opportuniste, épousé les évolutions des habillements de ce macronisme mouvant.
Laure Salvin, puisqu'on parle de Gabriel Attal, vous qui qui sondait l'opinion. Vous avez vu quelque chose sur Gabriel Attal? Parce qu'il était assez inconnu quand même il y a un an de ça. Hein.
Absolument. Et maintenant, il est dans le top. Oui, il faisait partie des ministres qui avaient du mal à émerger, justement. Et à partir du moment où est entré à l'Éducation nationale, et il a pris des positions sur l'abaya, sur le harcèlement, sur des sujets vraiment qui tenaient à cœur aux Français. Là, effectivement, dans les courbes d'opinion, et notamment dans notre baromètre Figaro Magazine, on a vu qu'il s'envolait littéralement et de façon très spectaculaire. Alors qu'effectivement, lors de ses précédents...
C'est pourquoi c'est un problème, une décision, un résultat ?
Oui, et puis c'est surtout « je m'engage ». Sans tabou. Et je crois que c'est ce qu'ont apprécié les Français pendant toute cette séquence à l'Éducation nationale, c'est que Gabriel Attal a mis les pieds dans le plat sur un certain nombre de sujets qui étaient plus ou moins tabous et en fait a pris des décisions extrêmement fermes, autoritaires d'ailleurs, et en faveur d'un plus grand ordre, de davantage de règles et d'autorité. Donc je crois que c'est ce qui a marqué l'opinion. Il y a eu des avis aussi très tranchés sur lui, et en même temps, quand on regarde les différents sympathisants, c'est ça qui est à droite et à gauche aussi. C'est ça qui est particulier, c'est qu'il a une certaine, vous voyez, plasticité politique. À gauche, il plaît beaucoup. Au centre également, mais y compris à l'extrême droite. Les RN sont 40%, par exemple, à être satisfaits de sa nomination en tant que...
Et votre sondage pour le Figaro Magazine montre qu'il est jeune, mais il plaît aux retraités.
Absolument, aux plus seniors. Et ça, c'est assez étonnant, c'est-à-dire qu'il a quand même acquis ces derniers mois une certaine crédibilité, légitimité, auprès notamment de ceux qui suivent le plus la politique et auprès aussi de ceux qui votent le plus. Donc là, dans la perspective des élections européennes, moi je pense que c'est un énorme coup politique en fait, hein, et un coup dans une stratégie électorale pour 2024, mais aussi 2026, municipale et évidemment 2027. Donc je pense qu'on entre dans une autre séquence.
Ça y est.
Une autre séquence de l'ère Macron. C'est-à-dire qu'on était sur du en même temps, on était sur de la gestion. On avait des ministres qui étaient gestionnaires, techniciens. On passe à des ministres qui vont être politiques, qui vont s'appuyer aussi sur des dimensions de communication beaucoup plus marquées. C'est le cas de Gabriel Attal, c'est le cas aussi de Rachida Dati.
C'est ça qui est terrible, c'est qu'on est tous dans le coup d'après. Alors, Rachida Dati, elle est sur Paris 2026, Gabriel Attal, c'est sur France 2027.
Oui, parce qu'effectivement, Rachida Dati, ou en tout cas ses proches, ont fait savoir qu'au-delà de son entrée dans le gouvernement, il y aurait eu un accord avec le président de la République pour qu'elle soit la tête de liste lors des municipales de 2026.
Sous l'étiquette Macron, alors ?
Oui. De la majorité, avec les maires de droite qui la soutiendraient. Ça, c'est démenti officiellement par l'Élysée, qui dit qu'elle peut-être se donner des idées, mais officiellement, on est libre de le croire ou pas, l'Élysée, effectivement, dément cet accord-là. Mais c'est vrai que c'est là où on voit que, ce que je disais alors, c'est un double coup dur pour la droite, parce que les patrons des Républicains vous disent ce double coup, Gabriel Attal, Rachida Dati, ça nous ringardise, parce qu'effectivement, Gabriel Attal, il parle aux jeunes et il parle aux électeurs plus âgés de droite. Et Rachida Dati, même si c'est l'époque sarkozyste, c'est quand même plutôt une image moderne de la droite par rapport à d'autres élus-là. Et c'est là où, quand vous échangez avec les patrons des Républicains cet après-midi, ils vous disent qu'il va falloir qu'on digère ce coup-là, c'est pas gagné.
Alors, c'est donc la surprise du chef que personne n'avait vu venir. Rachida Dati, nommée au ministère de la Culture, l'emblème du gouvernement qui penche désormais nettement à droite, notamment aussi avec l'arrivée de Catherine Vautrin dans un super ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. Les anciens LR, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire et Sébastien Lecornu, eux, restent en place, reconduits dans leurs portefeuilles respectifs. Sujet de Léo Seux et Ilana Azinko.
C'est l'image que souhaitait montrer l'exécutif, jusque dans le choix de la table. Un gouvernement serré, resserré. 14 ministres réunis autour du président de la République et du Premier ministre.
Bien. Le gouvernement rassemblé. Au travail. Merci beaucoup.
Parmi les nouveaux ministres, une figure très remarquée. Rachida Dati, bien consciente d'avoir créé la surprise.
Je comprends qu'elle puisse surprendre cette nomination. Moi, elle ne me surprend pas. Alors chacun sait que j'aime me battre. N'ayez pas peur.
Rachida Dati, un tempérament bien trempé et un sens de la formule. Voilà ce qu'elle déclarait au lendemain des régionales en 2021.
En marche, c'est quoi ?
C'est des traites de gauche, des traites de droite. C'est la réalité. Ils viennent d'où ceux qui sont aujourd'hui à La République En Marche? Ils viennent d'où? Ils viennent du PS ou ils viennent des Républicains?
Qu'importe, la nomination de cette ancienne sarkozyste est un véritable coup politique pour Emmanuel Macron. Symbole d'un virage à droite assumé. Car elle n'est pas la seule. Avec elle, Catherine Vautrin, ancienne ministre sous Jacques Chirac, prend la tête d'un super ministère du Travail et de la Santé. Non sans saluer l'un de ses modèles politiques, de droite lui aussi.
Je veux bien sûr rendre hommage. Rendre hommage à l'un de mes prédécesseurs. C'est évidemment Jean-Louis Borloo, avec lequel j'avais franchi pour la première fois les portes de ce ministère.
À droite toute, donc. La gauche ironise.
Bienvenue au gouvernement Sarkozy 4.
La droite, elle, s'agace, irritée par ses prises de guerre.
Ce sont les faire-valoir d'une politique de communication, de pure communication, que nous connaissons déjà bien. Parce que ça fait depuis 2017 maintenant qu'Emmanuel Macron joue à cette politique du casting permanent qui en réalité ne dit rien de la réalité de l'action dans laquelle il emmène la France.
De nouvelles figures de droite qui s'ajoutent à celles qui restent en poste. Des poids lourds du gouvernement, Bruno Le Maire à l'économie, Gérald Darmanin à l'intérieur et Sébastien Lecornu aux armées. L'enjeu pour le Premier ministre sera de réussir à exister au milieu de ces personnalités politiques de premier plan qui discutent en direct avec le chef de l'État. Alors, saura-t-il tenir les rênes du gouvernement ?
On est tous une équipe, sincèrement. Quand on voit l'urgence d'un certain nombre de défis, quand on voit ce qu'on doit relever pour valoriser le travail, pour améliorer la sécurité des Français, pour renforcer l'autorité partout dans notre pays, pour lutter contre le réchauffement climatique, pour soutenir nos services publics, vous savez, on ne se pose pas de ces questions-là.
Mais certains dans l'opposition ne voient pas comment le Premier ministre pourrait s'émanciper.
Ce qui m'a d'abord le plus frappé, si vous le permettez, peut-être avant de parler de Rachida Dati elle-même, c'est cette espèce de double tutelle sous laquelle le Premier ministre va évoluer. La tutelle, évidemment, du président de la République, et puis la tutelle de Nicolas Sarkozy, qui a placé ses affidés, ses plus proches. Rachida Dati était une des plus proches de Nicolas Sarkozy, et je trouve que cette double tutelle, cette tutelle croisée dans laquelle va évoluer Gabriel Attal, en dit long sur ses marges de manœuvre.
C'est en tout cas une autre ministre que Gabriel Attal a choisi pour l'accompagner cet après-midi pour son troisième déplacement depuis sa nomination, Amélie Oudéa-Castéra, sa ministre au portefeuille élargi, éducation nationale, jeunesse, sport et Jeux olympiques et paralympiques.
Alors, Louis Auzelter, question téléspectateur, c'est Ray dans le Gard. Avec son expérience, Rachida Dati n'aurait-elle pas été plus efficace en tant que ministre de la Justice? C'est vrai que ça a surpris beaucoup de monde de la voir à la culture. Alors, je ne peux m'empêcher le plaisir de lire, enfin, de constater le scud qu'a envoyé Anne Hidalgo avec ce message. Je souhaite bon courage aux acteurs du monde de la culture, compte tenu des épreuves qu'ils vont traverser.
Alors, il faut savoir que la question du poste n'est venue qu'après. En fait, Emmanuel Macron, il voulait d'abord la personne Rachida Dati. Il voulait la prise de guerre. Le sujet avait déjà été évoqué, c'était dans la tête du président depuis un certain temps. D'autres idées ont circulé. Rachida Dati aurait aimé, selon ce qu'on m'a dit, le ministère de l'Intérieur, dans ses rêves les plus fous. Et d'ailleurs, il se trouve qu'il a été fugacement proposé à Gérald Darmanin de quitter la place Beauvau pour aller prendre le grand ministère social qui finalement atterrit chez Catherine Vautrin. Bon, il a refusé, hein, il a choisi de rester place Beauvau. Mais du coup, il y a quand même eu, sur le papier, une grande valse des ministères qui, en réalité, ne s'est pas produite. Et qui peut-être aurait pu créer ce trou de souris. Donc Macron veut Dati comme prise de guerre parce qu'il il veut faire un coup politique et un coup médiatique. Et puis il se trouve au passage qu'il cherche une ministre de la Culture parce qu'il veut congédier Rima Abdul-Malak pour différentes raisons, pas uniquement pour ses déclarations sur l'affaire Depardieu, mais ça en fait partie. Donc cet alignement des planètes se fait là parce que Rachida Dati, à ce moment-là, et elle est reçue d'ailleurs hier après-midi par Emmanuel Macron après son déjeuner avec Gabriel Attal, à ce moment-là, Rachida Dati accepte d'entrer au gouvernement et que la place qui est vacante, c'est celle du ministère de la Culture. J'ajoute son calcul sur Paris, le ministère de la Culture, c'est pas, dans sa tête en tout cas, c'est pas le plus mauvais ministère où atterrir quand vous vous intéressez à la mairie de Paris.
D'où le scud de Anne Hidalgo.
D'où le fait que la campagne municipale, bah, en fait là, elle a quasiment commencé puisque effectivement l'Élysée explique que ça n'a rien à voir, qu'il n'y a pas d'accord sur la mairie de Paris. Bon,
donc c'est un CDD.
Le croire. Et deuxièmement, Rachida Dati, pour tous ceux qui ont échangé avec elle ces dernières années, tout le monde sait très bien que son seul vrai objectif politique, c'est Paris en 2026.
Et elle le dit d'ailleurs dans le message qu'elle adresse. Exactement. Aux élus de droite.
Bien sûr.
Je elle ne ne perds pas mon objectif.
Exactement, c'est ce qu'elle dit aux élus de son groupe. Et d'ailleurs, elle leur demande que quelque part, ils la gardent comme leur candidate et explique qu'elle veut rester aux Républicains alors qu'Éric Ciotti l'en exclut d'office dès qu'il apprend sa nomination.
Alors, Cécile Cornudet, est-ce qu'il faut s'attendre à tout avec Rachida Dati à l'intérieur de ce gouvernement? On a vu avec la petite phrase assassine de Anne Hidalgo qu'elle sait susciter des inimitiés et elle-même le reconnaît. Ce matin, elle a dit lors de la passation de pouvoir, chacun sait que j'aime me battre.
Oui, et je crois que c'est pour ça qu'elle est choisie aussi, parce que c'est une grande gueule qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui anime le débat politique. Après, elle est absolument redoutable, parce qu'elle est sans foi ni loi, elle est ingérable, elle fait ce qu'elle veut, mais elle a une force, elle a une parole hyper percutante, elle a de l'humour, vachard, incroyable. Dans une joute, dans des débats, elle est terrible. Donc, c'est un énorme pari, parce que comment elle va s'intégrer dans une équipe et puis en plus, elle est quand même mise en examen pour corruption.
Ça n'a pas gêné Emmanuel Macron
non,
de nommer...
Non, je crois que même on m'a rapporté que quelqu'un lui avait dit non, mais quand même c'est un peu gênant, d'autant que par exemple François Bayrou, il avait été débarqué en 2017 alors qu'il n'était même pas mis en examen, donc je sais que ça énerve beaucoup François Bayrou, ça. Et il a répondu qu'il s'en foutait. Au contraire, la présomption d'innocence, c'est ce qu'a dit Gabriel Attal. Donc, c'est un risque énorme. Et puis là, d'ailleurs, dans l'immédiat, il y a aussi un risque qu'elle est tellement, elle prend tellement la lumière, elle est tellement audacieuse, elle ose tellement tout qu'elle écrase tout le monde. Donc, ça va être, on dit beaucoup, Gabriel Attal va avoir du mal à exister par rapport à Emmanuel Macron, mais presque même par rapport à Rachida Dati. Et le coup... Attal qu'a fait Macron en début de semaine, il est presque un peu écrasé aujourd'hui, vous voyez, on ne parle que de Rachida Dati, par le coup Rachida Dati. Donc voilà, c'est du spectacle, c'est une conception de la politique quand même axée sur la communication, mais ça pète quoi, ça fait parler dans les chaumières.
Laure Salvin, elle a toujours une image forte dans l'opinion, Rachida Dati?
Elle a toujours une image très forte, effectivement, depuis qu'on la teste, même si elle n'est plus au premier plan de la politique nationale, elle reste quand même parmi les hommes et les femmes politiques qui émergent vraiment dans l'opinion. Par exemple, elle est au-dessus d'Éric Ciotti, elle est au-dessus de nombreux ministres, d'ailleurs, même y compris aujourd'hui de la Macronie, et elle plaît beaucoup, alors elle, pour le coup, au centre et à la droite. Elle plaît plus, d'ailleurs, auprès des sympathisants de droite que Ciotti ne peut plaire. Donc c'est quand même assez paradoxal. Et puis, je crois qu'effectivement, vous disiez franc-parler, elle va droit au but. C'est quelqu'un que les Français comprennent. Et je crois que par rapport aux précédents ministres aussi, où souvent il y a eu des critiques sur, mais en fait, ils sont trop techno, on ne comprend pas exactement ce qu'ils veulent dire. Et on n'arrive pas à voir où est-ce qu'ils veulent aller. Elle est très claire, elle parle simplement. Il suffit qu'elle se déplace, que ce soit en province, dans une grande ville, une petite ville.
En fait.
C'est une star, en fait. Elle fascine complètement. Alors, elle agace terriblement une partie de la population.
Elle est clivante.
Elle est très clivante, mais elle ne laisse pas indifférente. Et je crois qu'aussi, c'est ce qu'on avait reproché au précédent gouvernement, avec un S, j'ai envie de dire, c'est d'être un peu plan-plan, quoi. Voilà, d'être un peu...
Rachida Dati, elle imprime.
Elle imprime, effectivement. Elle suscite de la colère, de la haine, mais aussi une certaine fascination. Elle symbolise aussi de nombreuses choses pour les Français. C'est quand même une personne qui est issue de l'immigration, qui a réussi.
Alors, justement, c'est intéressant, mais c'est le contraire du profil de Gabriel Attal, dont on disait, mais qu'est-ce qu'il connaît de la France? Lui qui est né dans les beaux quartiers parisiens et qui a fait les meilleures écoles. Rachida Dati, c'est le modèle de l'ascension républicaine. Elle vient elle est issue de l'immigration. D'ailleurs, elle l'a rappelé ce matin.
Issue de l'immigration, c'est une femme malgré tout, c'est une femme seule, c'est une femme qui s'est faite toute seule aussi, très indépendante. C'est aussi peut-être ce qui peut être inquiétant chez elle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas énormément de garde-fous. Donc, par rapport à Gabriel Attal, effectivement, il y a de vraies différences.
C'est un peu ce qui est revendiqué d'ailleurs par l'Élysée dans le choix de Rachida Dati à la culture, c'est de dire justement, de par son parcours, c'est celle qui peut illustrer l'ouverture de la culture à des gens qui n'y ont pas forcément accès.
Ce qu'elle a dit d'ailleurs ce matin.
Et ce qu'elle a dit ce matin. Après, ce qu'on voit, c'est que ce choix politique, ça morcelle les Républicains, on vient d'en parler, mais attention, ça morcelle aussi la propre majorité d'Emmanuel Macron. Comment va réagir une partie de l'aile gauche de la majorité dont on parle ? c'est pas très clair.
On va revenir, mais sur les Républicains, est-ce qu'ils ne sont pas dans un blues épouvantable en disant on se fait prendre nos idées, l'immigration, la sécurité, on se fait prendre nos têtes d'affiche, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et maintenant Rachida Dati. Il y a un moment, il faut rendre les armes. Quoi.
Ils sont, c'est ce que se demande un certain nombre de jeunes, si j'ose dire, responsables des Républicains, comme par exemple Aurélien Pradier, qui aujourd'hui disent clairement, est-ce que c'est pas le moment de tourner la page des Républicains ? Finalement, ils jugent que ce remaniement et ce nouveau gouvernement, ça éclaircit les choses. Il y a les gens de droite qui vont travailler avec Emmanuel Macron, qui finalement sont sur la ligne de Nicolas Sarkozy et qui l'assument. Et puis il y a les autres, comme lui, juge Aurélien Pradier, c'est-à-dire qui sont dans une opposition au gouvernement. Ils estiment que finalement la ligne portée par Éric Ciotti d'une opposition dite responsable qui peut voter au coup par coup un certain nombre de textes, ça ne tient plus. Et ils travaillent d'ailleurs à une initiative pour les prochains jours ou les prochaines semaines avec un certain nombre de jeunes députés pour dire finalement est-ce que c'est pas le moment d'enterrer les Républicains et de construire autre chose.
Cécile Cornudet, avec tous ces poids lourds au gouvernement, Rachida Dati, Bruno Le Maire, et puis on a bien vu que c'était Emmanuel Macron hein, qui tirait les ficelles puisqu'apparemment Gérald Darmanin, Gabriel Attal n'était pas au courant de l'arrivée de... Quelle sera la marge de... Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'autorité pour Gabriel Attal et de marge de manœuvre pour lui ?
C'est une des vraies questions, parce que finalement, c'est un Premier ministre quand même qui est un politique. C'est le premier depuis le départ. Édouard Philippe l'est devenu, mais au départ, il n'avait pas d'envergure, il n'était pas très connu, etc. Lui, il a déjà une force politique. Donc, on aurait pu penser qu'Emmanuel Macron avait changé de conception du rôle du Premier ministre. Et en fait, non, je pense qu'il prend beaucoup Gabriel Attal parce qu'il a du sens politique et qu'il est très populaire, mais il le veut quand même le maintenir dans... pour lui, ça, il a eu ce mot devant un ministre récemment, il a dit un Premier ministre est un animateur-coordinateur. C'est même pas un collaborateur, hein, c'est un animateur-collaborateur. Donc,
il fait s'exprimer les talents.
Voilà, il a accepté, mine de rien, que Gérald Darmanin s'auto-renomme ministre de l'Intérieur. Il a imposé à Gabriel Attal son directeur de cabinet. Il n'a pas pu le choisir. Donc c'est un sarkozyste, un autre, Emmanuel Moulin, qui va être son directeur de cabinet. Et manifestement, Emmanuel Macron va s'exprimer en début de semaine prochaine, peut-être sous la forme d'une conférence de presse lundi ou mardi, pour dire un peu pourquoi il fait tout ça, quelle est la nouvelle phase de son quinquennat, avant le discours de politique générale de Gabriel Attal. Donc on voit que, pour l'instant, il est très contrôlé.
Louis Osalter, Gabriel Attal, est-ce que son ascension fulgurante lui vaut aujourd'hui des inimitiés ? Est-ce qu'il a des amis où il suscite beaucoup de jalousie pour être monté si vite, si haut ?
Il a peu d'amis dans l'équipe gouvernementale qui était sortante, mais vraiment très peu. En fait, moi, j'en ai qu'une en tête, une proche plutôt qu'une amie, c'est Aurore Berger, qui était ministre des Solidarités. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a été rétrogradée à la fonction de ministre déléguée, chargée de l'égalité homme-femme. Donc elle perd quand même un grade dans le gouvernement. Ce qui montre que, comme ça illustre tout à fait ce que disait Cécile, sur le peu de poids de Gabriel Attal, c'est un remaniement Macron. C'est-à-dire que c'est lui qui a tout décidé de A à Z. Et Gabriel Attal, qui est arrivé mardi à Matignon avec un état d'esprit dans lequel il voulait poser des actes d'autorité pour marquer sa patte, montrer son autorité face à des poids lourds du gouvernement qui attendaient le petit gamin en ricanant avec des airs de crocodile qui voulait dévorer celui qui leur est passé sous le nez et qui a été nommé là où un Gérald Darmanin ou un Bruno Le Maire ont pu convoiter le poste. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? Non seulement les deux ont été maintenus, non seulement ils ont vu ça en direct avec Emmanuel Macron, mais en plus, il n'y a pas eu de promotion Gabriel Attal. Et effectivement, alors la raison principale, c'est qu'Emmanuel Macron a mis son emprise totale sur ce remaniement et l'a décidé de A à Z. Et le meilleur exemple, c'est effectivement Rachida Dati nommé et le Premier ministre étant mis ensuite devant le fait accompli parce qu'Emmanuel Macron a mené ça avec un petit commando de proches de bout en bout en quelques jours. Mais l'autre explication, c'est que Gabriel Attal n'avait pas tant d'amis que ça dans la majorité à promouvoir. Et je peux vous dire, quand il a été nommé Premier ministre, on a reçu quelques messages de ministres sortants qui n'étaient pas du tout heureux de ce choix.
Il s'est fait des
amis. Pas seulement les poids lourds dont on parle.
L'aile gauche
ne
l'aime pas du tout, par exemple, alors qu'il en vient. Exactement. Mais il y a beaucoup de jalousie entre eux. En revanche, il y a une personne qui est très proche de Gabriel Attal, c'est Jean Castex. Et on parle toujours de la mainmise de Nicolas Sarkozy, mais Jean Castex, depuis plusieurs semaines, est très actif, manifestement.
Et il aurait aimé l'avoir au gouvernement, Jean Castex ?
Je crois qu'il aurait aimé l'avoir au gouvernement. Et en tout cas, cas, Jean Castex, ça fait partie de ceux qui ont réfléchi autour d'Emmanuel Macron depuis le mois de décembre sur comment nommer Gabriel Attal Premier ministre et comment faire cheminer cette idée.
Guillaume Daré, on a vu ô combien Gérald Darmanin avait pris un malin plaisir pour signifier qu'il avait passé un coup de fil à Emmanuel Macron pour dire « je garde l'intérieur ». On l'a vu boudeur quand il était en déplacement avec Gabriel Attal. Beaucoup de ministres de poids lourds comme ça vont prendre un malin plaisir à escamoter Gabriel Attal, à lui faire à ne pas lui accorder le respect qu'on lui devrait à sa fonction.
En tout cas, effectivement, en étant conforté ou en s'autonomant avant même que le Premier ministre les confirme à ce poste-là, et même pour Bruno Le Maire, en élargissant un petit peu son périmètre, c'est sûr qu'ils ont acquis une forme de liberté, et j'allais dire une forme de liberté parce qu'ils savent désormais qui ne seront pas nommés à Matignon, a priori, par Emmanuel Macron dans ce quinquennat. Donc, ils n'ont finalement plus rien à perdre aujourd'hui. La place de Premier ministre, Gérald Darmanin, il a pu y penser. Bruno Le Maire aussi un peu. Ils voient Gabriel Attal. Aujourd'hui, ils se disent, c'est passé probablement une fois pour toutes durant ce quinquennat. Donc, ils vont à un moment aussi jouer leur carte. Pas tout de suite, parce que c'est quand même mieux pour forger une image d'être dans l'action plutôt que dans l'opposition. Les communicants disent toujours, c'est quand on est ministre qu'on peut montrer ce qu'on veut, qu'on peut montrer ce qu'on pense et surtout qu'on peut montrer ce qu'on veut faire pour se construire pour la suite. Donc évidemment, à un moment, ils vont réfléchir à sortir de ce gouvernement, mais pas tout de suite et probablement pas avant notamment les Jeux Olympiques.
Laure Salva.
Et puis d'ailleurs, je pense qu'effectivement, il faut faire attention au retour de bâton de l'opinion parce que les Français, ce qu'ils aiment, c'est quand même la loyauté. À partir du moment où on fait partie d'une équipe au service de la France, au service du gouvernement, il faut être un peu aligné. C'est peut-être aussi le troisième A que je rajouterais au titre de votre émission, à droit et aligné en fait. Il y a beaucoup plus d'homogénéité, je trouve, dans ce gouvernement-là aussi.
C'est la fin du en même temps ?
C'est peut-être la fin du en même temps, oui. Là, il y a quand même un sens politique qui est donné, ou en tout cas une couleur politique qui est donnée, qui est beaucoup plus claire qu'auparavant. Et donc, les autres grosses pointures vont devoir aussi faire attention à garder un bon équilibre entre, effectivement, exister, mais exister en tant que ministre et en tant que membre d'une équipe. Ça, effectivement, c'est plutôt valorisé. Et c'est aussi ce qui manquait à ces précédents gouvernements, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y avait pas juste Emmanuel Macron qui gouvernait ou qui présidait, mais qu'il y avait bien une équipe derrière au travail. Et là, donc, l'idée, ça va être aussi quand même de faire attention de ne pas être dans la déloyauté, parce que ça, c'est très sévèrement sanctionné par les Français.
Cécile Cornudet, avoir des résultats, disait Laure Salvin. C'est vrai que c'était ce matin Jérôme Fourquet qui disait est-ce qu'on est face à un feu de flamme qui s'éteint très vite ou est-ce qu'on est face à un feu de braise qui va durer ?
Rachida Dati, vous voulez dire ce nouveau gouvernement ?
Non, mais ce gouvernement-là, l'effet waouh en une semaine avec un Gabriel Attal suivi de deux Rachida Dati.
Un effet waouh, ça ne dure jamais. Après, il faut voir ce qu'on obtient. Est-ce qu'il peut limiter la casse par rapport aux élections, au Rassemblement national, aux élections européennes ? Et surtout, est-ce qu'il peut continuer à gouverner et à réformer la France ? Et je pense que c'est là un des principaux problèmes qu'il peut avoir, parce qu'autant c'est peut-être un bon coup pour les Européennes, on verra, d'avoir nommé Rachida Dati et d'avoir fracturé la droite. En revanche, ça réduit la majorité à l'Assemblée nationale. Or, c'est le principal problème qu'a Emmanuel Macron depuis un an et demi. Pourquoi je dis ça ? Parce que LR, qui avait voté certains textes, est tellement furieux qu'Éric Ciotti a dit, en tout cas, vous ne comptez plus sur nous. Et l'aile gauche de la Macronie, elle-même, là, aujourd'hui, elle est tellement désarçonnée, elle ne reconnaît tellement pas ce qu'elle a construit en 2017 qu'elle est tentée de s'émanciper et de fronder, puisque le mot est détesté d'Emmanuel Macron, mais ça peut commencer à y ressembler.
Question d'Antoine en Haute-Savoie. Pourquoi le gouvernement s'entête-t-il à vouloir séduire et s'allier une droite qui ne vote finalement pas ses lois ? C'est vrai que Louis Osalter, peut-être que c'est malin pour le gouvernement, mais à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que ça va donner tout ça, en fait, là, ce shaker à droite ?
Il faut voir qu'il les vote, les lois. C'est-à-dire qu'on peut se focaliser sur la loi immigration et puis sur le psychodrame des retraites, mais sur le reste des textes qui ont moins d'enjeux politiques, s'ils sont passés 149-3 et sans majorité absolue, c'est bien parce que la droite, en tout cas une partie, a voté les textes de loi présentés par le gouvernement. Et c'est là qui est important, effectivement, le tournant dont parlait Cécile, c'est si, vexés comme des poules, les Républicains rentrent dans leur tanière et disent cette fois on arrête et on va arrêter de voter, y compris les lois
peu politiques, comme celles qui arrivent sur l'énergie, par exemple, eh bien là, il y a un vrai problème, parce que le 49.3, ça n'est utilisable qu'une fois par session hors texte financier, et le quinquennat ne peut pas continuer uniquement à base de psychodrames comme celui qu'on a vécu sur la loi immigration. Sur la droite, il y a aussi quelque chose d'important à avoir en tête, c'est que, en fait, là où on voit que Nicolas Sarkozy ne tire pas les ficelles, en réalité, en tout cas très peu, c'est que le scénario Sarkozy, c'était de se mettre ensemble, c'est de faire une sorte de coalition pour que des députés, les Républicains, quittent leur camp, ou en tout cas aillent voter les textes d'Emmanuel Macron, et donc on forme une majorité absolue comme cela.
Un pacte de gouvernement.
Ouais, c'était un pacte, c'est ça, et il plaide pour ça depuis le début.
Pas des débauchages individuels.
Que fait Emmanuel Macron? Il reste un manqué d'affaires. Il fait de la fusion-acquisition, il essaye d'absorber ce qu'il peut de la droite, et il fait des deals individuels avec des gens. C'est ce qu'il a fait avec Rachida Dati, c'est ce qu'il a fait avec Catherine Vautrin, c'est ce qu'il avait fait en 2017 avec un Bruno Le Maire, un Gérald Darmanin, un Edouard Philippe. Il fait du débauchage individuel pour tuer ce qui reste des Républicains. Maintenant, on va avoir l'heure de vérité. Le choc Dati, c'est vrai que ça les tétanise énormément leur rang. Alors, est-ce que ça va sonner l'alali pour eux? On aura une première réponse aux élections européennes. Mais du coup, ce n'est pas le scénario Sarkozy qu'applique Emmanuel Macron. Il ne veut pas de ce pacte de coalition parce qu'il pense que ce n'est pas possible. Et ce n'est pas la façon dont il conçoit sa présidente. Il ne veut pas se mettre dans les mains d'un allié trop encombrant. Il fait de la fusion-absorption en débauchant de manière individuelle.
Alors, l'arrivée en force de la droite pousse une bonne partie de l'aile gauche macroniste en dehors du gouvernement. Rima Abdul-Malak, Olivier Dussopt ou Clément Beaune sortent donc de l'exécutif. Sauf surprise, une droitisation pas du goût du centriste François Bayrou. Le patron du Modem menacerait même de présenter sa propre liste aux élections européennes. C'est un sujet d'Anne Maquignon et Erwan Illion.
Monsieur le ministre, s'il vous plaît.
Il aurait voulu rester, monsieur, continuer le travail entamé au ministère des Transports. Mais ce matin, Clément Beaune a annoncé son départ du gouvernement. Ses réserves publiquement affichées sur la loi immigration lui ont coûté sa place.
Je suis fier d'avoir été ministre pendant 3 ans et demi. Agir au service de mes convictions, de mes électeurs, des Français est un immense honneur. Je continuerai.
Et ce n'est pas le seul, issu de la gauche, à être éjecté du gouvernement. À la culture, Rima Abdul-Malak, longuement applaudie au ministère ce matin, est-elle aussi désavouée après sa réaction à la loi immigration et à l'affaire Depardieu.
Devenir ministre n'était pas un rêve pour moi. Je disais, mon rêve, c'était de devenir libre et de le rester. Je me suis mise au service d'une ambition pour la France, à laquelle j'ai cru totalement, ardemment. Mais je suis restée libre. Libre de mes engagements, libre de mes prises de position.
L'aile gauche du gouvernement en voie de disparition. Exit aussi Olivier Dussopt, ancien ministre du Travail, qui a porté la réforme des retraites.
Je quitte le gouvernement après plus de 6 années, d'une tâche parfois harassante mais toujours passionnante.
La menace d'une condamnation judiciaire dans un procès pour favoritisme a sûrement acté son départ. Alors que reste-t-il du « en même temps » En 2017, le candidat Macron en avait fait sa promesse de campagne.
C'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. On essaiera toujours de le remettre dans une case, de dire « moi je suis d'un gouvernement de gauche et je l'assume totalement. Et je veux travailler avec des gens qui se sentent aujourd'hui à droite aussi. »
Pendant plus d'un an et demi, Elisabeth Borne, nommée à Matignon, devait être la caution de gauche d'Emmanuel Macron.
Moi je vous confirme que je suis une femme de gauche, et que la justice sociale, que l'égalité des chances, c'est au cœur de mes combats.
Mais la réforme des retraites, clairement marquée à droite, a rapidement donné le ton du deuxième quinquennat du président.
Cette réforme est nécessaire.
Puis le mois dernier, la loi immigration, vécue comme un basculement par la gauche.
Je ne veux pas croire, chers collègues de la majorité présidentielle, que vous puissiez toutes et tous cautionner ce qui a été fait sous la dictée du gouvernement.
Le « en même temps » a-t-il alors officiellement disparu? Pour le nouveau Premier ministre, lui-même ancien socialiste, la promesse de Macron, ni de droite ni de gauche, est toujours d'actualité.
Moi, je ne suis pas là à demander à mes ministres de vider leurs poches pour me montrer la carte de leur parti politique. Et je ne pense pas que c'est ce que les Français attendent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit des ministres, des femmes, des hommes, qui ont envie de répondre aux problèmes des Français. Vous avez dans le gouvernement, effectivement, des personnes qui ont une sensibilité de droite. et vous avez des personnes, des personnalités qui ont une sensibilité de gauche. Je pense à Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, à Stéphane Séjourné qui a été nommé ministre des Affaires étrangères.
Pourtant, même les alliés du président ne semblent pas convaincus. Le centriste François Bayrou serait lui aussi mécontent du virage à droite. Il menacerait même Emmanuel Macron de présenter sa propre liste aux élections européennes.
Laure Salvin, c'est une menace à prendre au sérieux, ça, un François Bayrou qui présenterait sa liste aux européennes. Il peut faire trébucher la liste macroniste.
En tout cas, il fracturerait encore davantage le centre-droit et la droite, l'électorat de centre-droit. Et effectivement, ça pourrait être très nuisible pour Renaissance, mais pas que pour Renaissance d'ailleurs, hein, pour l'ensemble de la droite et même l'ensemble de l'échiquier politique, j'ai envie de dire. Parce que plus il y aura de listes électorales lors de ces élections, et plus le RN aura un boulevard pour arriver largement en tête devant les autres. Et les autres vont se partager.
Pour l'instant, ça donne quoi ? Le RN était autour de 30%.
Autour de 30%.
Et la liste macroniste autour de 20.
Autour de 18-20, voilà, d'accord. Exactement.
Cécile Cornudet, question téléspectateur. Que va devenir Elisabeth Borne ? Pourrait-elle quitter la politique et rejoindre le secteur privé ?
Alors, elle a fait une grande carrière dans le privé, Elisabeth Borne, déjà. C'est vrai qu'on moi, j'ai entendu, par exemple, la SNCF, la direction de la SNCF, qui va se libérer dans quelques mois, et que c'était une idée de la recaser là. Mais ce n'est pas du tout ce qu'elle a dit quand elle est partie. Elle a dit qu'elle voulait... Elle a été élue. Elle veut venir à l'Assemblée nationale. La question... Donc, elle a jamais fait ça, être députée à l'Assemblée nationale. Donc, elle a d'avoir envie de connaître cette expérience. La question, c'est qu'est-ce qu'elle va en faire ? Jusqu'à présent, on parle beaucoup de l'aile gauche, mais elle ne s'est jamais organisée. Il y a des individus qui râlent de temps en temps, mais ils n'existent pas, ils ne pèsent pas, ils ne se réunissent pas entre eux. Alors, avec cet épisode de Rachida Dati, ça peut changer. D'ailleurs, il y a une réunion de l'aile gauche mardi à l'Assemblée nationale, avant la réunion du groupe. Et elle, est-ce qu'elle pourrait être fer de lance d'une sorte d'opposition interne à la Macronie sur la gauche. En fait, tout dépend de son état d'esprit. Ça, c'est difficile à savoir. Est-ce qu'elle a suffisamment de rancœur vis-à-vis de ce qu'elle a vécu, des couleuvres qu'elle a dû faire ? C'est une femme de gauche qui a quand même dû faire...
Qui, elle, contrairement à Gabriel Attal, n'a pas viré à droite.
Voilà. Si, elle a quand même mené jusqu'au bout la
loi immigration. À contre-cœur ou...
Un mélange de bons soldats, de « on m'a dit de le faire », de « l'opinion le demande », de « j'essaye d'arrondir les angles pour que ce soit moins dur que ce que ça pourrait être si j'étais pas là », un mélange de tout ça. Donc elle, pour l'instant, il n'y a pas de leader à l'Assemblée nationale de la gauche macroniste. Elle pourrait être ce leader. Clément Beaune aussi, qui aussi va revenir sans doute à l'Assemblée nationale. Donc il y a plein d'interrogations sur ce qu'ils vont faire.
Est-ce que d'ailleurs cette droitisation de la Macronie, Louis Osaltern, ne libère pas un espace à gauche, une gauche social-démocrate, old school ?
C'est le grand espoir, notamment des soutiens de Raphaël Glucksmann pour les élections européennes, qui se disent qu'il pourrait y avoir une place pour que ce soit le troisième homme, parce que pour l'instant, il y a un duopole entre Jordan Bardella et puis la tête de liste à venir d'Emmanuel Macron. Mais donc, ce duel Macron-Le Pen qui rythme la vie politique depuis 2017, à la fois à la présidentielle et aux européennes, pour l'instant, il continue dans les sondages en vue du scrutin de juin. Donc, effectivement, avec la droitisation de la Macronie et le fait que le duel RN-Macron se joue sur le flanc droit... On voit qu'on est sur des sujets autorité, des sujets régaliens, que la ligne économique libérale va se poursuivre avec l'annonce de nouvelles réformes. Effectivement, il pourrait y avoir ce champ. Pour l'instant, il n'y a pas de percée spéciale. Pour l'instant, il n'y a pas de troisième homme ou de troisième femme des élections européennes. Mais le grand espoir, d'abord des partisans de Raphaël Glucksmann pour les européennes, et puis de cette gauche... un peu post-François Hollande, quelque part, à l'ancienne, du coup, qui s'agite autour de Bernard Cazeneuve, de François Hollande lui-même, de gens qui gravitent autour du Parti Socialiste ou des écologistes, s'imagine qu'il pourrait y avoir un espace. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Les enquêtes d'opinion montrent que la demande d'autorité, de réponse régalienne à des sujets comme la sécurité et l'immigration est extrêmement forte, que les taux d'approbation à des mesures fortes, et notamment des mesures qui ont été prises par la loi immigration, sont élevés, et qu'en réalité, ça concerne pas vraiment le clivage droite-gauche, le taux de réponse de personnalité, de gens, de Français qui se disent sympathisants de gauche à des items tels que est-ce qu'il y a trop d'étrangers en France ou est-ce qu'il faut renforcer la sécurité, est assez élevé. Donc ces sujets en fait se sont mis à transcender l'axe droite-gauche. Et donc si la gauche veut se réinventer sur un espace comme ça, elle va devoir aussi réinventer des réponses aux sujets qui sont ambiants et dont a su s'emparer par exemple un Gabriel Attal venu de la gauche, mais qui n'est plus étiqueté à gauche de fait.
Guillaume Daret, alors parmi les victimes de ce remaniement, on l'a dit, François Bayrou, l'aile gauche de la Macronie, est-ce qu'on peut citer également Édouard Philippe qui a manifesté sa mauvaise humeur, hein. Il a cité...
Il a dit publiquement déjà que lui était favorable au maintien d'Elisabeth Borne, ouais. Parce qu'il juge qu'un remaniement et un changement de Premier ministre sans changement de ligne ni de majorité, ça n'a pas grand sens, et il l'a dit d'ailleurs publiquement. Donc le message est bien passé. Ensuite, il n'est pas content effectivement parce qu'il y a un supposé accord, comme on le disait tout à l'heure, sur la mairie de Paris, et que lui, il a un candidat qui s'appelle Pierre-Yves Bournazel, et donc l'entourage...
Et ce qu'il ne pense pas à 2027, surtout. Et
aussi, mais l'entourage d'Édouard Philippe fait bien savoir que s'il y avait un quelconque accord entre Emmanuel Macron et Rachida Dati, son parti n'y serait aucunement lié. Donc ça, c'est dit. Et puis, je crois qu'il y a aussi une différence, on le disait, de pratique politique. C'est-à-dire qu'Édouard Philippe, lui, ce qu'il a défendu, ce qu'il continue de défendre, c'est un accord de gouvernement avec les partis de droite, c'est-à-dire se mettre autour de la table, discuter avec Éric Ciotti, avec Bruno Retailleau, avec Olivier Marleix. Le dépochage personnel, le coup de com' qu'on peut voir, par exemple, autour de Rachida Dati, c'est pas vraiment la nature d'Édouard Philippe. Donc c'est ça qui lui pose problème, et effectivement, ça fait un mécontent de plus à côté de François Bayrou. Côté du Modem, on est très attentif, nous dit-on, à l'équilibre et à la ligne politique, parce qu'ils n'étaient pas vraiment favorables à Gabriel Attal, au Modem. Ils trouvent que Catherine Vautrin et Rachida Dati, ça fait beaucoup à droite. Et il se pose un petit peu François Bayrou comme le garant de cet ADN macroniste. Et il ne veut surtout pas donner le sentiment, me disait son entourage, qu'un camp l'emporterait sur l'autre. C'est-à-dire que la droite l'emporterait, ouais, finalement sur le dépassement, même si c'est un peu ce qu'on perçoit aujourd'hui.
Cécile Cornudet, est-ce que bon, derrière tout cet habillage idéologique, il n'y a pas aussi les vieux de la politique qui attendent leur tour et qui craignent d'être laminés par les petits jeunes triomphants qui arrivent et qui vous prennent la place?
Je pense qu'il y a ça chez Emmanuel Macron. C'est, en choisissant Gabriel Attal, c'est de donner un coup de vieux à tous ceux qui rêvent de lui succéder, et ça l'horripile. Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, ça leur donne un coup de vieux. Il a 34 ans, c'est le plus jeune de la Ve République, on l'a beaucoup dit. Donc il y a... Mais en même temps, on ne sait pas, dans 3 ans, au moment de la présidentielle, peut-être que les gens en auront marre des jeunes, hein, et que ce sera... on aura envie d'un vieux. En tout cas, il y a une dimension de cet ordre, effectivement.
Ce qui est intéressant, d'ailleurs,
concernant François Bayrou, l'Élysée dit, bon, ben oui, qu'il aille aux européennes. Il ne pense pas une seconde qu'il peut faire un gros score. Et en fait, tous ces râleurs d'aujourd'hui, il monte un peu le son pour pouvoir avoir des ministres délégués dans la seconde phase qui va arriver.
Parce qu'on n'a pas le gouvernement en intégral.
Non,
là.
Voilà, il reste les ministres délégués, les secrétaires d'État. On ne sait pas combien ils seront, mais forcément, il y en aura. A priori, c'est dans une dizaine de jours, après les expressions de Emmanuel Macron et Gabriel
Clément Beaune pour avoir un lot de consolation.
Je n'ai pas l'impression, Clément Beaune. En plus, la détestation entre Gabriel Attal et lui est très forte. Ah. Et en plus, Emmanuel Macron n'est pas content contre lui. Donc ça fait deux choses. Ça n'aurait pas été Gabriel Attal, mais lui, je ne vois pas comment il serait repêché. Je ne sais pas pour Olivier Dussopt, en revanche.
Mais il y a toujours
il y a son histoire de procès.
Laure Salvin, sur...
Juste un point sur la jeunesse, parce que justement, quand on demande aux Français si la jeunesse de Gabriel Attal est un handicap ou un avantage, une majorité de Français disent que c'est ni un handicap ni un avantage. Donc ça, je trouve que c'est aussi intéressant en termes d'évolution et de rapport à la politique, c'est que finalement...
Avant, on exigeait de l'expérience.
Exactement, on exigeait de l'expérience. Et aujourd'hui, on se dit, en fait, tout est possible. Peut-être que Gabriel Attal, même s'il n'a pas l'expérience, même s'il n'a pas fait ses armes quelque part concrètement, mais peut-être qu'il peut y arriver, parce que il faut savoir que les Français sont tellement désespérés aussi à l'égard de la situation du pays, qu'ils se disent, finalement, peut-être que la solution peut venir de là aussi, avec des solutions beaucoup plus pragmatiques, terre à terre. Et c'est aussi ce qu'attendent les Français, hein, des solutions du quotidien. On parle beaucoup de ce terme et de ces préoccupations-là qui intéressent les Français. Mais voilà, ça peut être aussi une solution pour Gabriel Attal de surfer là-dessus, de se dire, finalement, moi, effectivement, j'ai peut-être pas l'expérience des autres, mais j'ai d'autres idées, et d'autres idées qui peuvent être disruptives et intéressantes pour la France.
Alors justement, les préoccupations du quotidien. Parmi les dossiers chauds de Gabriel Attal, il y a le sujet du chômage, hein, qui repart à la hausse en ce début d'année. Depuis plusieurs mois, les annonces de liquidation judiciaire et de faillite s'enchaînent. Léa Dermidjian et Diane Cacciarella sont allées à la rencontre d'une ex-vendeuse de l'enseigne d'habillement Pimki, licenciée après 30 ans de travail. Et vous allez le voir dans ce sujet commenté par Nicolas Bidard. Elle est très inquiète pour son avenir personnel.
Retour à la case départ pour Camailleux. 2 ans après son rachat, l'entreprise est de nouveau en cessation de paiement.
Habitat vient de demander son placement en redressement judiciaire.
Une grande braderie avant fermeture chez Gosport. C'est la fin d'une époque et d'une grande enseigne française.
Une nouvelle marque française dans l'œil du cyclone. Il s'agit du chausseur Minelli.
Des annonces de faillite d'entreprise chaque mois ou presque. 55 000 l'an passé. Un record depuis 2017. Derrière ces chiffres, les histoires d'anciens salariés. À Limoges, Sophie était vendeuse pour l'enseigne de prêt-à-porter française Pimki. Mais tout s'est arrêté brutalement. Le mois dernier, elle est licenciée après un plan social.
C'est triste de voir un magasin qui existait depuis 32 ans. On était dans cette galerie. Et de le voir vide et de nous donner les clés et ça y est, fini, on s'en va, quoi. Ben, je suis rentrée, j'avais 18 ans, donc j'ai fait toute ma carrière à Pimki. J'adore le commerce, j'adore les gens, donc j'ai eu beaucoup d'attaches pour ce métier-là.
D'année en année, Sophie voit l'enseigne décliner. Et pour elle, les difficultés économiques s'accumulaient.
Avant, ce qui faisait notre salaire, il y a quelques années, c'était la prime. Donc on avait des primes tous les 3 mois, qui étaient l'équivalent d'un quart, d'un demi ou d'un salaire, donc qui change complètement la vie. Actuellement, on n'a plus ces primes. Donc du coup, on se retrouve au SMIC, je dis bien à 30 heures, à 26 heures, à 28 heures. Pour vivre aujourd'hui, c'est très compliqué, quoi.
Désormais, une inquiétude domine. Celle de ne pas retrouver facilement un emploi à 51 ans.
À mon âge, j'ai pas de diplôme, enfin j'ai un BEP et SAP. C'est compliqué quand on n'a pas de diplôme de voir l'avenir, quoi. Donc moi j'ai pas envie de rester au chômage, je veux rebondir. Mais est-ce que ça va pouvoir se faire? Je suis très inquiète dessus, quoi.
D'autant que le contexte économique ne se veut pas favorable. Un taux de chômage qui regagne du terrain en France, retrouvant son niveau d'il y a 1 an et demi. Et un gouvernement qui affiche la couleur sur les dépenses publiques.
Je rappelle que nous devons trouver au minimum, 12 milliards d'euros d'économies pour 2025. Appelons donc un chat, en matière de finances publiques, le plus dur est devant nous.
Des dirigeants et des politiques, Sophie n'attend plus grand-chose, se sentant abandonnée, désabusée.
Pour nous, ils font absolument rien. Augmenter le SMIC, le pouvoir d'achat, tout augmente, sauf nos salaires. On travaille, il y a de la pénibilité dans nos travails, rien n'est reconnu et franchement, au bout d'un moment, stop. Donc voter pour le mal ou le moins mal ou le pire ou... je crois que je vais m'abstenir.
D'ici quelques mois, elle envisage une reconversion dans le secteur social pour tourner définitivement la page du prêt-à-porter.
Louis Osalter, on a entendu Bruno Le Maire. Le plus dur est devant nous. D'ailleurs, est-ce que la première décision de Gabriel Attal ne pourrait pas être cette fameuse augmentation de 10% du prix de l'électricité, là, à la fin du mois.
Attendu pour le 1er février, exactement. Alors, c'est d'autant plus difficile à prendre comme décision que ce n'est pas lié au prix du marché, puisqu'en réalité, après une explosion en 2022, les prix de l'énergie sont à la baisse sur les marchés mondiaux. C'est parce que l'État veut réintroduire une taxe qui pèse sur les factures d'électricité, parce que le quoi qu'il en coûte, c'est fini, et que donc on revient à la normale, y compris en rétablissant les taxes sur les factures. Et Gabriel Attal, hier à la télévision, ne s'est pas exactement prononcé sur ce qu'il avait fait. Ce qui laisse à penser, soit qu'il n'a pas voulu annoncer une mauvaise nouvelle si tôt après sa prise de fonction, soit, et c'est sans doute le plus probable, que cet arbitrage n'est pas rendu et qu'on va entrer dans une période où ce type de tension va se multiplier en interne entre un Bruno Le Maire et donc un Bercy qui est sur sa ligne classique de « on a besoin d'argent, il faut arrêter les dépenses inconsidérées et donc serrer la vis et donc rétablir ce genre de taxes » et un gouvernement, alors qui au gouvernement, on verra bien, mais Emmanuel Macron, Gabriel Attal, qui devront décider, trancher sur le fait de continuer quand même un petit peu certains cadeaux. Et ça, la question est d'autant plus posée que Gabriel Attal insiste sur les classes moyennes depuis qu'il est Premier ministre, certes, mais c'est déjà ce qu'il faisait avant dans ses fonctions ministérielles. Et qu'il a reparlé de ces 2 milliards d'euros de baisse d'impôts dont Emmanuel Macron a parlé lui-même et dont nous n'avons toujours pas l'échéance et qui sont quand même très attendus dans le pays. Donc voilà, on se dirige vers une série d'arbitrages budgétaires qui risque d'être très douloureux et de causer de grandes tensions en interne au gouvernement.
Laure Salvin, on a vu le cas de cette femme qui peine à joindre les deux bouts malgré 30 ans d'ancienneté. Il ne faut pas se leurrer. La première attente des Français, c'est pouvoir vivre décemment de son travail.
Exactement, c'est le pouvoir d'achat, hein, beaucoup plus effectivement que l'emploi, où, qui a été relégué à la 5e, 6e, 7e position dans le baromètre. C'est vraiment effectivement la préoccupation principale aujourd'hui des Français, c'est-à-dire de pouvoir vivre correctement de son travail. Ça, c'est évidemment l'idéal. Et pas d'aide, effectivement. Et en même temps... Ils ont été habitués justement à ce quoi qu'il en coûte et c'est difficile d'en sortir. On le voit bien quand on interroge les Français aujourd'hui, ils nous disent on n'est pas sorti de la crise en fait. On n'est plus confinés, les prix de l'électricité ont commencé à baisser, etc. Mais en fait, on est toujours dans un sentiment de crise. Et quand j'étais assez marquée là en début d'année, en septembre, à la rentrée, on interroge souvent les Français pour savoir quel est leur état d'esprit et ils nous disaient aujourd'hui j'ai peur. En fait, la peur remonte. C'est dingue, alors qu'effectivement, on pourrait considérer qu'on est sorti de la crise la plus dure qu'on ait traversée ces 10 dernières années. Et non, les Français continuent à considérer effectivement qu'ils sont fragilisés, que les politiques ne les écoutent pas suffisamment et qu'effectivement, soit on arrive à prendre le train en marche tel qu'il roule et tel que la classe politique aujourd'hui a décidé qu'il roule, soit effectivement on est laissé sur le côté et de plus en plus de Français aujourd'hui nous disent je ne suis pas considéré par les hommes et les femmes politiques et mes préoccupations ne sont pas prises en compte.
Cécile Cornu, des questions téléspectateurs. Christophe dans le Loir-et-Cher, avec une dette de 3000 milliards d'euros, le prochain budget prendra-t-il la forme d'un plan d'austérité? On a entendu ces mots très déterminés de Bruno Le Maire. Hein. Le plus dur est devant nous.
Il ne dit pas austérité. Mais c'est vrai que le fait que Bruno Le Maire soit conforté à Bercy, c'est plutôt le signe qu'on va poursuivre la même politique économique, qui est de répondre à toutes ces questions de pouvoir d'achat, non par des aides et des augmentations de minimum sociaux, par exemple, mais par une politique visant le plein emploi. Et pour obtenir le plein emploi, il faut continuer à réformer le marché du travail, à réformer l'accès des seniors à l'assurance chômage, des choses comme ça, plutôt, qui sont plutôt perçues comme des réformes difficiles. Donc, est-ce qu'ils vont tenir? Et c'est vrai que les vœux d'Emmanuel Macron, le 31 décembre, étaient plutôt dans cette tonalité-là. L'emploi, ça reste. Obtenir 5% de taux de chômage en France, 5 ou 6%, c'est vraiment l'objectif, en espérant que ça résoudra par ricochet les problèmes de pouvoir d'achat de beaucoup de gens.
Guillaume Daret, puisqu'on parle de Bruno Le Maire, lui aussi ne s'en cache pas. Hein, il a des ambitions présidentielles qu'il avait déjà manifestées en 2016. À un moment, tôt ou tard, il jouera sa carte personnelle. Emmanuel Macron le sait.
Et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas été nommé à Matignon. C'est probablement cela. C'est-à-dire que quand on fait le portrait robot du Premier ministre, sinon idéal en tout cas, qui en avait toutes les compétences, on arrive vite à Bruno Le Maire. C'est quelqu'un qui est identifié, on disait, qui imprime quand même dans l'opinion, qui a plutôt fait du bon travail, on le disait, pendant la crise du Covid, qui a bénéficié, il faut bien le dire quand même, d'un carnet de chèques qui était ouvert par le président de la République, mais il en a récolté l'image. Il a une forme de professionnalisme de la politique. Le problème, c'est qu'il y a une question de confiance politique entre Emmanuel Macron et Bruno Le Maire. Il a jamais caché, Bruno Le Maire lui-même, en coulisses, parfois ses critiques ou son étonnement à l'égard de certaines mesures du président de la République. Mais il a toujours dit, je crois qu'il l'avait dit encore il y a quelques mois dans une interview chez nos confrères du Point, je n'abandonne aucune de mes ambitions. Donc évidemment, il sera sur la ligne de départ quand les ambitions vont commencer à se dessiner pour la suite.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Vous venez d'écouter C'est dans l'air, c'est un podcast France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner. C'est dans l'air est disponible gratuitement sur toutes les plateformes audio, en vidéo, disponible sur francetv.fr. À très bientôt.